Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Je suis heureuse de vous retrouver en ce premier dimanche du mois de février. Nous sommes de nouveau ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Et je vous rappelle que si vous souhaitez passer à l'antenne, c'est facile. Il vous suffit d'appeler le 3921. Premier dimanche de février, nous sommes à 47 jours du printemps, période d'espoir et de renouveau. La période de l'année où nous devrions prendre exemple sur la nature, laisser en hiver ce qui appartient à l'hiver, laisser le gris et le froid derrière nous, nous détacher pour nous renouveler. Malheureusement pour nous, le détachement est l'une des choses les plus difficiles qui soient. On résiste souvent parce qu'on a peur de perdre l'objet de notre attachement. On veut que les choses se passent à notre façon, que les autres agissent comme on veut, que notre vie se déroule comme on l'a programmé. Et pourtant, chaque fois qu'on résiste, qu'on bloque, on souffre un peu plus. Le détachement, ce n'est pas s'éloigner des autres, ce n'est pas non plus être indifférent à ce qui arrive quand on attend quelque chose, non. C'est juste laisser le passé où il est, et rester ouvert à ce qui arrive, peu importe les résultats. C'est accepter de composer avec ce que la vie met sur notre chemin. C'est un grand exercice de confiance, d'ouverture de cœur et d'acceptation. Alors si vous avez besoin de vous détacher, de prendre un recul nécessaire par rapport à quelqu'un ou à une situation, parlons-en, appelez-moi dès maintenant au 3921. Hassan est prêt à recevoir vos appels au standard et à vous guider jusqu'à moi. Vous savez que vous pouvez aussi réagir, bien sûr, et participer par SMS en 73921, commençons bien par le mot nuit. Votre soutien, votre expérience, vos conseils, ils sont les bienvenus. À la réalisation ce soir, Fabrice Fougerouze, on baisse les lumières, on ouvre l'antenne et on commence.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et on commence ce soir avec William. Bonsoir à vous, William. Bienvenue.
Merci à vous, enchanté. J'interviens suite au passage de Chantal de la semaine dernière, que je salue au passage, concernant les relations entre les petits-enfants et les grands-parents. Je vais essayer d'être assez concis parce que je suis des cannes de casse, pour que vous puissiez comprendre la situation dans laquelle je me trouve au jour d'aujourd'hui.
D'accord.
Divorcé, donc, dans les années 70, je suis un jeune homme, donc j'ai eu un enfant. Cet enfant, je m'en suis bien occupé, bien sûr, avec la garde tous les 15 jours, la moitié des vacances, comme il se voit, jusqu'à l'âge de 18 ans, puisque la majorité est à 18 ans aujourd'hui. Et j'ai fêté avec ce jeune homme ses 20 ans, ça s'est très bien passé. Après quoi, je n'ai plus de nouvelles. Je m'en suis inquiété, j'étais surpris. J'ai contacté sa maman, qui m'a dit, bah, écoute, maintenant il est majeur, vois avec lui. Bon, j'ai essayé de joindre ce monsieur. Vu que j'avais un travail qui me permettait de voir certains dossiers, j'ai découvert qu'il avait un enfant. Donc, je lui ai écrit en souhaitant, bien sûr, faire la connaissance de mon petit-fils. Et entre-temps, cette dame, dont sa maman, s'est remise avec un monsieur, chose que je comprends, que je conçois. Et il m'a répondu, parce que nous avions des échanges par courrier, des missives, parce que c'était vraiment très long, que son fils avait déjà des grands-parents. Ce que j'ai eu mal à comprendre et à accepter. Le temps a passé, je ne l'ai pas revu pendant, oh bien 15 ans, 20 ans, on va dire. Et un jour, je reçois un mail dans lequel il me demande éventuellement de l'héberger, parce qu'il est en province. Je voulais revenir sur la région parisienne, chose que j'ai acceptée, puisque déjà je n'ai pas de rancune, et puis c'était quand même mon fils, et c'est toujours mon fils.
Et là, à ce moment-là, ça faisait combien de temps que vous ne vous étiez pas vus, physiquement ?
Physiquement ? Je vais vous dire 15-18 ans, je ne vais peut-être pas aller. Donc il a changé.
Du jour au lendemain, il vous demande de l'héberger ?
Oui. Il me demande de l'héberger. Parce qu'il se trouvait dans une situation assez précaire, il avait perdu son travail, bref. Il voulait venir sur Paris et apparemment sa maman ne pouvait pas, je suppose. Donc, je l'ai accepté. Je lui ai trouvé un petit hôtel parce qu'il voulait aussi avoir son indépendance. Tout s'est bien passé, tout s'est déroulé bien. Jusqu'au moment où il est venu passer un Noël avec moi. Et entre-temps, j'ai omis quand même de vous préciser qu'entre-temps, j'avais quand même eu des courriers de ce monsieur. Alors, je vais peut-être choquer un peu les gens et je vais être aussi sincère que je le suis. C'est que les courriers, ça a commencé par mon père, le premier courrier. Ensuite, ça a été mon géniteur. Et ça s'est terminé par monsieur.
Mais qu'est-ce qu'il vous reprochait ?
Alors, je vais y arriver. Je vais vous le dire, justement, je vais vous le dire parce que ça, je l'ai appris, bien sûr, au fil des courriers. Alors, je lui ai posé, donc je vais venir tout de suite, vous allez comprendre, je lui ai posé la question et il m'a répondu à l'âge de l'adolescence. Il avait commis un acte qui était quand même relativement, et je pense, très important et je n'étais pas intervenu. Alors, j'étais très, très démuni de moyens et je lui ai dit, si j'avais su que tu avais fait cette chose et commis cet acte, tu penses bien que je serais intervenu. Parce qu'il a fait cet acte vers 13 ans, donc il a l'adolescence. Et il m'en a voulu. Et il doit m'en vouloir toujours, d'ailleurs. Il m'en a voulu.
Mais attendez, que j'ai un peu de mal à vous suivre. Que vous ne soyez pas intervenu, pourquoi ? Pour l'empêcher de le faire ou pour le punir ?
Pas forcément pour le punir, mais pour essayer de le comprendre, déjà. Pourquoi il avait commis cet acte ?
Mais il pensait que vous saviez.
Oui, et il pensait que j'avais su et que je n'étais pas intervenu, alors que je ne l'ai jamais su.
En réalité, vous n'étiez pas au courant du tout.
Voilà, je n'étais pas du tout avisé de cet acte qu'il avait commis. Donc j'en ai parlé à la maman, elle m'a dit « ben pourtant, tu aurais dû le savoir, etc. etc. » Bon, après je n'ai pas voulu rentrer dans une polémique. Et il m'en a voulu. Et puis des courriers, ça a été « géniteur, monsieur, mon père, j'en m'en fais faire le visage pour plus te ressembler. » Il a essayé de changer son identité, mais il n'a pas pu. Mais voilà, donc moi j'ai après suivi un peu le dossier du petit. Et j'ai remarqué que le petit, son deuxième prénom, c'était le prénom de son beau-père, donc du mari de sa maman. Mmh. Alors je me suis dit, effectivement, ça concorde bien qu'il a donc un grand-père et une grand-mère, et que moi je suis pour rien. Alors pour vous dire que j'avais téléphoné il y a quelque temps à Libre Antenne, il y a peut-être 5 ans, et j'avais demandé ce que je pouvais faire. Soit intervenir pour essayer de retrouver mon petit-fils. Faire une procédure, ça ne me gênait pas trop, parce que de toute façon, je n'avais plus de contact avec mon fils, donc je ne risquais pas de me disputer ou d'avoir un conflit. Et on m'a dit non, vaut mieux pas, parce que le petit, ça risque de le traumatiser, vous allez... Bon, j'ai écouté un petit peu les conseils, et je ne l'ai pas fait. Au jour d'aujourd'hui, cet enfant a atteint la majorité. Mmh. Alors, je reviens un petit peu en arrière, vous allez mieux comprendre la chose. Donc quand il est venu il y a une dizaine d'années pour passer ce fameux Noël, il est resté dîner, il est resté couché, il est parti le matin. Et avant de partir le matin, je lui ai dit, bah, écoute, je serais ravi de connaître ton fils. Alors il m'a répondu, yeux dans les yeux, croyez-moi, on prend une claque, quand je parle de toi, je dis le monsieur. Alors je lui ai répondu, aussitôt, j'ai dit, écoute, puisque je suis un monsieur pour ton fils, je resterai un étranger pour toi, c'est plus la peine de revenir. Et je n'ai plus de nouvelles. Alors, au jour d'aujourd'hui, je réfléchissais, je me dis, c'est un gamin qui est majeur, est-ce que je pourrais pas essayer de le contacter ? Alors, plusieurs personnes me disent, on va vous retrouver quand même, son grand-père, il va... souvent les enfants essaient de retrouver leurs parents ou leurs grands-parents. Mais comme cet enfant ne s'est jamais manifesté alors qu'il y avait possibilité de contacter, je vais être aussi brutal, je me suis dit, peut-être pour clore la situation, pour éviter les conflits entre le père et le fils, est-ce qu'il n'a pas été jusqu'à dire, vu sa gentillesse et ses propos, que j'étais un homme décédé ? Alors vous allez me dire, pourquoi décédé ? Parce que quand on dit que la personne est décédée, on ne cherche plus à la connaître, on ne la cherche plus.
Oui, c'est le meilleur moyen de fermer la porte, quoi.
Voilà, vous avez tout compris. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce gamin, il est majeur. Hein. Je me dis, est-ce qu'il faut que je me manifeste ou pas ? Je me dis, si je me manifeste pour la curiosité de le connaître, ou est-ce que je me manifeste parce que je pourrais avoir des sentiments pour lui ? Et je me dis, est-ce que ça risque pas de faire encore un conflit ? et de le détruire un peu psychologiquement. Et qu'il envoie à son père et que ça fasse vraiment un drame dans la famille, pour parler un peu trivialement.
Pour quelle raison vous aimeriez le contacter, vous, sincèrement, dans le fond de votre cœur?
Parce que c'est mon petit-fils et que, vous allez comprendre, moi j'ai été abandonné par mon père et que mon fils m'a fait la même chose dans l'autre sens. Donc, avoir un petit enfant, parce que j'en ai pas déjà, et je prends de l'âge comme tout un chacun, il n'y a pas de raison que. Je ne sais pas comment dire cela, parce que ça serait un peu violent peut-être, qu'un autre prenne ma place.
Il n'y a pas de raison, vu par vous, vu par votre fils, c'est pas la même chanson.
Et non, parce qu'il ne me connaît pas.
Est-ce que pour aborder cette nouvelle période de votre vie, vous avez fait une thérapie, vous êtes posé un petit peu pour réfléchir à ce qui puisse se passer? Vous me dites, mon père m'a abandonné, mon fils a fait la même chose.
Je n'ai pas fait de thérapie, non, je n'ai pas fait de thérapie.
Eh oui, mais il y a peut-être quelque chose à chercher par là, parce qu'il y a une sorte de répétition là, dans votre histoire de famille.
Oui, ça répète souvent, j'ai beaucoup de... Je trouve que c'est parfois un peu... Je veux dire, un peu hâtif, et c'est un peu le côté un peu facile de dire, parce qu'il a été violé, il viole des grands-pères, parce qu'elle a été battue, il est battu. Je rentre pas trop dans ce créneau-là, dans ce...
C'est pas si simple que ça, mais en attendant...
Oui.
Une fois que, imaginez, votre petit-fils, vous me dites, c'est facile de le contacter. Par exemple, vous feriez comment?
Maintenant, c'est beaucoup plus difficile, parce que je ne suis plus en activité. De toute façon, maintenant, il aurait pu... Je sais, je peux savoir où il se trouve. Non, j'ai essayé par Facebook, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Et puis,
Vous avez déjà envoyé un message?
Oui, mais il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, et c'est tout récent.
Donc, vous demandez conseil, mais en fait, vous avez déjà fait comme vous vouliez faire.
J'ai fait parce qu'on m'a incité un peu à dire, essaie de le retrouver de cette manière-là. Maintenant, c'est peut-être pas la bonne manière.
Donc, vous êtes sûr d'être tombé sur son profil à lui, avec la photo et tout?
Je ne sais pas, puisque vous savez, des profils, maintenant, des gens échangent, les gens mettent des pseudos, les photos sont pas forcément... En plus, c'est pas sa photo, c'est une photo d'un footballeur. Bref. J'essaie, parce que je suis quand même... Il faudrait quand même le connaître.
Alors, pourquoi pas? Moi, je pense quand même que dans la vie, de manière générale, on récolte ce qu'on sème. Et quand ce qu'on récolte ne correspond pas à ce qu'on veut, il faut peut-être aller se demander ce qu'on a semé, ce qui s'est passé, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Bon, j'ai l'impression que ce n'est pas un chemin qui vous intéresse. Donc maintenant, très concrètement, votre petit-fils, il a, vous me dites qu'il a passé la majorité, mais ça veut dire qu'il a quoi, 18, 19 ou un peu plus encore?
Non, ce que vous dites.
Dans ces eaux-là. Je ne pense pas que ce soit un traumatisme pour lui que vous cherchiez à prendre contact avec lui, sauf s'il vous croit mort. Effectivement, ça peut être un choc.
Voilà,
En même temps, c'est pas un choc, il s'en remettra. Par contre, effectivement, ça peut créer un conflit entre son père et lui. Ça, vous en êtes bien conscient.
Absolument, c'est ce que
Parce qu'il
disais,
pourrait, il pourrait dire à son père, tu m'as menti, quoi, voilà.
Oui, m'as privé de voir mon...
Mais je dirais que ça, pour le coup... C'est pas votre responsabilité. Autant je suis pas tout à fait d'accord avec le fait de pas travailler sur soi, autant là, c'est pas votre responsabilité. Si votre fils a pris cette décision, c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire que si vraiment il a fait ce mensonge-là, il sait très bien qu'un jour ça peut lui sauter à la figure. Il a pris ce risque-là en faisant... Si, on met des si à chaque début de phrase. Hein. Si il a pris la décision de mentir à son fils...
Oui, au conditionnel, mais moi aussi, j'ai pensé à ça. C'est pour ça qu'il y a 5 ans, je n'ai rien fait, parce qu'on m'a dit que ça risque de lui nuire, donc j'ai rien fait.
Mais ça, ce n'est pas votre responsabilité à vous, pour le coup. C'est la sienne. C'est lui qui a joué à ça. C'est lui qui joue à ça, s'il ment. C'est pas vous.
Mais maintenant, il est majeur, donc à la limite, moi, mon fils, je le mets de côté. Quoi. Je n'ai plus affaire à lui. Je ne le contacterai pas. Je vais voir directement avec mon petit-fils.
De manière générale, moi, je pense que les non-dits et les mensonges, il ne faut pas les garder dans une famille. Donc j'espère que votre fils n'a pas menti au point de dire que vous êtes mort, parce que c'est grave.
Oui.
C'est grave, ça pour le coup, ce sont des choses qui sont compliquées à gérer pour un enfant, parce qu'à 18 ans, on est encore un enfant. En revanche, il a aussi, lui, le droit et la liberté de ne pas souhaiter entrer en contact avec vous. Donc il faut aussi envisager cette option-là. Et de se dire que peut-être il a eu votre message et que juste il n'en a pas envie.
C'est possible aussi.
Après, ça c'est plus compliqué, mais c'est aussi sa liberté à lui.
C'est possible aussi, mais bon, on me dit, les gens me disent souvent que les petits-enfants ou les enfants essaient de retrouver soit leurs parents ou leurs grands-parents. Quoi. Je veux dire, à la limite, il peut, s'il a un signe de ma part, il va, si toutefois, j'espère que non, il n'a pas dit que j'étais décédé, il va dire que ce monsieur existe puisqu'il me contacte.
Alors 18 ans, ça me paraît un peu jeune pour faire des recherches. C'est souvent une démarche qu'on fait un petit peu plus tard dans la vie. Notamment quand on devient papa, on commence à se poser des questions et on peut rechercher éventuellement ses grands-parents si on les a perdus de vue. Je ne suis pas sûre qu'à 18 ans, il soit déjà en train de chercher ses grands-parents. Mais peu importe, ce qui me paraît important, c'est que vous ouvriez des portes en lui disant, voilà, moi, je suis là, je ne sais pas ce qu'on t'a raconté. Ma porte est ouverte. Maintenant, à lui de la prendre ou ne pas la prendre. Il faut aussi accepter que ça puisse ne pas aboutir.
Ah bah bien sûr, ça je le conçois. Évidemment, il est libre de vouloir me rencontrer ou pas. Ça je le conçois.
Et si on va plus loin, imaginons que vous arrivez à renouer le contact et que vous allez prendre un café avec lui, par exemple, qu'est-ce que vous allez lui dire ?
Pour être franc avec vous, je n'ai pas pensé à cette hypothèse.
Est-ce que vous avez envie de parler de ce qui s'est passé avec votre fils ou pas du tout ?
Non, je crois que j'aurais plutôt envie de parler de ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. Je crois que je vais plutôt m'intéresser à lui.
Construire quelque chose avec lui plutôt que de revenir sur
non, non, je ne reviendrai pas en arrière parce que de toute façon, je ne veux pas le détruire. Toutefois, je ne veux pas le détruire. Et puis bon, ce qu'il y a eu avec son père, c'est entre son père et moi. Mais lui, je ne veux pas le mettre... Je ne veux pas le porter à faux, je ne veux pas non plus critiquer son père, c'est pas mon rôle.
D'accord, donc ce serait vraiment dans un objectif de créer un lien de grand-père.
Tout à fait, de grands-parents et de petits-enfants.
Et votre ex-femme, vous lui parlez encore là aujourd'hui ou plus ?
Non.
Vous ne pourriez pas envisager de savoir si elle a des contacts avec cet enfant, enfin ce jeune homme ?
Ah bah si, ah bah si, parce que les grands-parents sont sa maman et puis le monsieur avec qui elle s'est mariée. C'est si, elle a tout, elle a, moi j'allais, c'est si, elle a toujours côtoyé, sont toujours, c'est
si, elle a toujours. Aujourd'hui encore, vous pensez qu'ils sont proches aujourd'hui ?
Ah oui, je pense qu'ils sont proches, oui, vous savez, un garçon, c'est pratiquement proche de sa mère, hein. Et puis je ne veux pas non plus prendre cette image qu'on est toujours que la mère monte son fils contre le père quand il y a un niveau, je ne veux pas prendre non plus ces images, ça ne m'intéresse pas du tout, donc je pense que ça vient plus du gamin, et bon après pourquoi Mais lui, il a fait des thérapies, un peu vu ce qu'il avait commis. Je ne sais pas. Mais je suis bien embêté parce que j'aimerais bien le connaître, cet enfant.
Alors, si jamais ça ne fonctionne pas par Facebook, quelles sont vos options pour retrouver un contact ?
Je ne sais pas. Si je pourrais peut-être chercher, parce que éventuellement, d'après le nom peut-être de sa maman, parce que j'ai encore des dossiers, retrouver peut-être le nom. La maman, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Je sais où elle demeurait. Je sais d'où il habitait éventuellement en province. Mais bon, je ne sais pas si j'irai jusque-là. Je ne veux pas faire une enquête policière non plus. M'initier trop dans la vie privée. Parce que bon, on peut penser aussi que les décennies sont écoulées. Et maintenant, c'est revenir un peu en arrière. Je me pose des questions. Est-ce que c'est bien de le faire ? Est-ce que c'est pas bien de le faire ? Est-ce que je vais mettre de l'huile sur le feu ? Est-ce que
William, on laisse la question en suspens. On marque une courte pause. Je vous retrouve tout de suite.
Oui, d'accord. Merci.
Oui, William, vous me disiez que vous n'avez pas non plus envie d'être trop invasif, trop intrusif.
Tout à fait. Et puis je revenais aussi en publicité. Je me pose la question, si je rencontre ce jeune homme, est-ce qu'il ne me posera pas la question satirique, de dire pourquoi tu n'as pas essayé de me rechercher plus tôt ? Et là, thématiquement, je vais bien être obligé d'y expliquer pourquoi.
Vous pouvez aussi parfaitement lui dire en une phrase, ton père s'est opposé, nous étions en conflit.
Ah ben c'est ce que je lui dirais.
Le reste est entre lui et moi, et puis voilà.
Oui, ça c'est sûr, c'est ce que je lui dirais. Parce que c'est bien possible que ce genre de réflexion, il pourrait bien faire.
C'est compliqué pour les parents, souvent, quand on est fâché avec son père ou sa mère, de ne pas impliquer l'enfant, d'être suffisamment mature pour dire, écoute, voilà, moi, j'ai plus de contact avec lui, ça me regarde, mais toi, tu es libre de faire ce que tu veux. Malheureusement, beaucoup de parents ne sont pas comme ça et vont essayer d'impliquer l'enfant et de l'amener dans ce conflit-là qui n'est pas le sien, en fait.
C'est sûr. Les parents, ce sont des parents, mais...
Quels que soient les torts, parce qu'on n'est pas là après la génération d'après pour savoir qui a raison, qui a tort.
Non.
Simplement, ces jeunes-là héritent d'un conflit qui n'est pas le leur.
Oui, c'est sûr.
Et on ne leur laisse pas vraiment le choix, quoi.
Mais je me dis, je vais loin, très très loin même. Je me dis, ça peut rester un secret de famille, cette histoire-là, finalement.
Ah bah si jamais vous pensez qu'il pense que vous êtes décédé, oui, c'est lourd à porter.
C'est lourd, parce que ce monsieur... Je ne sais pas, parce qu'il était petit, donc il a toujours, il s'est toujours fait passer pour le grand-père. Donc son grand-père, voilà, c'est ce monsieur et sa mamie, c'est la maman de son. Mmh. Maintenant, il a dû dire quand même, en grandissant, mais ton père est debout. Et c'est là que je vous dis, il a dû dire. Bon, c'est vrai que c'est un peu peut-être.
Bon, cela dit, vous n'en savez rien. C'est
réducteur,
c'est un scénario.
Réducteur de dire ça, mais bon. Oui, c'est mon scénario. Bah, on se fonde tous, vous savez, on se fait tous un scénario hein, mmh. dans notre vie. Et c'est un peu réducteur de dire, oui, il est décédé, quoi. Je lui ai dit qu'il était décédé.
Bon, c'est une option, mais ce n'est pas la seule. Il n'a peut-être jamais dit ça pour l'instant.
Oui, c'est possible, mais je ne vois pas pourquoi il m'a empêché de voir ça.
Bah, la deuxième option serait qu'il ait dit des horreurs sur vous. Hein.
Voilà, c'est ça.
Suffisamment pour le gamin se dise « j'ai même pas envie de le rencontrer ».
Voilà, c'est ça, oui, bien sûr. Il me déteste, entre guillemets. Parce que...
Donc c'est ça aussi. Même s'il n'a pas signifié que vous étiez mort, il peut avoir dit tellement de choses sur vous que ce garçon se dit « voilà, j'ai pas du tout envie de le rencontrer, ce monsieur ».
Alors, au jour d'aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'appelle aussi. Donc, bon, c'est vrai que j'ai fait ce petit appel sur Facebook. Tout en étant, ça a été trois mots. Hein. Est-ce que vous êtes le fils de monsieur Intel ? Et puis voilà, quoi, ça a été très bref, cordialement, et j'ai signé mon nom. Mais je me dis, est-ce que tu veux le faire vraiment ou est-ce que tu veux te venger ? Je vais loin hein, dans mes propos, bien sûr. Ça peut choquer des auditeurs. Est-ce que tu veux te venger de ton fils ? Je me pose des questions. Hein, Et puis, lui rendre un peu la monnaie de sa pièce, quoi. Quand il m'a fait souffrir pendant 20 ans, et pendant tout maintenant, je ne voudrais pas que l'enfant m'en compatisse. Quoi.
Mais c'est ça que vous voulez vraiment aujourd'hui, c'est la vengeance ?
Non, c'est dans ces deux cas. Non, je vous présente ces deux cas. Je ne sais plus. Je suis vraiment sur un bateau et avec du poids à l'avant et du poids à l'arrière. Hein, donc, est-ce que je vais couler ? Est-ce que je vais copier l'eau ? Est-ce que je vais. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Ah, si vous partez avec un sentiment de vengeance, je vous garantis que vous allez couler.
Ah oui, non, mais je sais, non, je pars pas spécialement, c'est difficile dans ma tête.
C'est bien pour ça que je vous parlais de thérapie. Ça fait du bien aussi de se poser chez quelqu'un pour parler de tout ça calmement et prendre un peu de recul.
Ah oui, non, mais je comprends bien, mais c'est vrai que je vais discuter, on va tergiverser, je vais avoir la version de la personne. Mais bon, je dirais pas quand on est déterminé, on est déterminé. Tout ce qu'on peut nous dire autour, c'est ça vole le coucou. Mais je pense, hein, jamais certain, que mes démarches, je sais pas, je vais continuer encore un peu, mais peut-être qu'après je vais abandonner, quoi, je vais me résigner.
Mais William, de votre côté à vous, vous n'avez pas refait votre vie avec une femme, avec d'autres enfants, avec d'autres liens ?
Ça, c'est autre chose.
Oui, mais ça pourrait vous nourrir aussi, plutôt que d'aller de ce côté-là où c'est vide, où c'est creux.
Non, j'ai une enfant, mais j'ai pas refait ma vie, mais j'ai une enfant. Heureusement, ça me donne beaucoup d'amour.
Ah ben voilà.
Oui, j'ai une enfant. Oui.
Elle a quel âge ?
Elle est plus jeune. Elle a à peine 30 ans.
Il n'y a pas de petits-enfants de ce côté-là ?
Ah non. Fais ses études d'abord, on continue. Mais c'était deux situations différentes. Je mélange pas les deux. Et à côté mon fils et puis à côté ma fille. C'est, je ne veux pas assimiler les deux. Je veux bien faire le distinguo entre les deux. C'est pas parce que je m'entends admirablement bien avec ma fille ou qu'on est très fusionnel que je ne veux pas retrouver mon petit-fils.
Oui, je comprends.
Je pourrais très bien, comme beaucoup de gens me disent, ah bah oui, mais t'as une fille, elle donne beaucoup d'amour, d'affection, tu devrais te nourrir de cela et oublier. Non.
Oublier, non, mais je pense que vous pourriez réécouter le papier que j'ai fait en ouverture d'émission sur le détachement.
Oui, j'écoutais. Je
ne savais pas qu'on se parlerait derrière, mais ça vous correspond assez.
Oui.
Pour résumer, je vous dirais que si vous êtes vraiment dans un objectif positif et de quelque chose de sain, tentez le maximum pour le récupérer. Si ce n'est pas le cas, lâchez du lest.
Ouais,
laissez tomber les liens qui ne fonctionnent pas ou qui sont toxiques.
Mais je crois que le connaître, ça me donnerait du pep, ça me donnerait une vision ou autre que j'ai. Quand j'entends les papis et les mamies, à mon âge, on est tous. Les gens sont papis, mamies. Ça me fait quelque chose. Oui, mais en plus, c'est, j'ai une grande maison, j'ai eu un jardin, vous voyez, bon, maintenant il est grand, bien sûr, mais j'aurais pu le prendre plus petit, j'aurais pu venir faire des balades, on aurait pu faire des jeux, comme un papy peut faire avec ses petits-enfants.
Allez, avec les jorets, on peut faire beaucoup de choses. Vous auriez pu aussi avoir une belle relation avec votre fils, ça n'a pas été le cas.
Oui, voilà, bien sûr, avec Dessie, parce qu'on fait le monde, j'ai bien compris.
Cette relation avec votre fils ne s'est jamais créée pour des raisons X et Y. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, j'ai envie de vous dire, essayez. Essayez plus pour lui que pour vous, pour qu'il ait la possibilité d'accepter ou pas.
Ah oui, de toute façon, ça, c'est pas accepté.
Mais si vous ne le faites pas dans un esprit positif, là, vous allez vraiment aussi couler. Si c'est pour relancer les conflits, quand je vous entends parler de vengeance, comme tout à l'heure...
Non, mais c'est la question, c'est parce que au coin de ma tête, je me dis ça, mais je suis pas méchant pour deux sous, donc je n'irai pas jusque-là, mais je me dis, il y a peut-être plusieurs cas de figure, quoi.
Ben, vous savez quoi, William ? Oui. Laissez tomber l'ego et écoutez votre cœur.
Oui, ben, mon cœur, c'est de le retrouver, par amour, et affectif. Ça, c'est surtout ça, quoi.
Alors, restez connectés à ça.
Ben, je vais essayer de rester... Oui,
avec cette intention-là. Et une fois de plus, ouvrez la porte et vous verrez s'il apprend ou pas.
Oui. D'après vous, qu'est-ce que vous pensez quand il va recevoir ce petit mail ou ces quatre mots, qu'est-ce qu'il va... Comment il va réagir d'après,
je sais pas. Ben, je suis un peu surprise de la manière du ton que vous avez pris pour lui écrire. Il me semble que moi, j'aurais mis, si c'est toi, je suis ton grand-père, sache que j'aimerais te rencontrer, quelque chose d'un peu plus humain, d'un peu plus chaud.
Oui, mais j'ai pas voulu être trop brut, trop direct, c'est ça. Sinon, oui, j'ai voulu
parce
être un
peu plus... Êtes-vous le fils de machin chose? Oui, bon, et il n'a pas forcément envie de répondre à ça s'il ne sait pas qui vous êtes.
Oui, mais si je dis je suis ton grand-père, ça risque tout de suite peut-être mettre le feu aux poudres, voyez-vous, ça va être direct. Je préfère rester un peu dans le doute, un peu comme ça, il va me répondre ou pas. Il peut être aussi interpellé par ça.
Et interroger,
désir, tiens.
Moi, très honnêtement, William, à sa place, je ne répondrais pas à un truc comme ça.
Ah bon.
Alors que si je recevais un message en disant « je suis ton grand-père et j'ai très envie de te connaître », là, ça me toucherait.
Le côté... Mais alors, il a déjà un grand-père. Vous imaginez un peu le choc que ça peut lui faire d'un seul coup, quoi, je veux dire. Moi, je voulais y aller par...
Mais vous n'en savez
touche.
Rien. Vous faites beaucoup de supputations dans cette histoire.
Ah oui, moi, je suppute beaucoup, oui, ça.
Et du coup, ça vous bloque vous-même, parce que vous n'ouvrez pas des portes en disant « de toute façon, je ne pourrais pas l'ouvrir », mais vous n'en savez rien.
Oui, remarquez, je peux toujours lui refaire comme ça, mais... Je n'aurais pas le choquer.
Quand je vous dis branchez-vous sur votre cœur, c'est vraiment ça, quoi. Parlez-lui avec le cœur. Pas avec des cordialement qui êtes-vous, quoi.
Oui, mais si vous voulez être un peu plus impersonnel pour qu'il s'interpelle et qu'il se pose la question, qu'il me réponde. Et là, effectivement, je me serais dévoilé, j'aurais dit exactement les choses.
Et si vous osiez vous dévoiler un petit peu de temps en temps?
Oui, pourtant, je suis quelqu'un d'extraverti. Je ne suis pas trop introverti comme garçon. Mais c'est vrai que
ça
là, je
me trouve en...
Bah, si, parce que je parle assez, je peux me dévoiler.
Je dirais même que c'est le contraire. Les gens qui sont extravertis cachent souvent des choses.
Ah bon, vous pensez? Ah bon.
Ça ne veut pas dire se dévoiler, être extraverti, pas du tout.
Oui, mais me dévoiler, je ne veux pas me dévoiler comme ça du jour au lendemain non plus.
Non, mais ouvrir un tout petit bout de votre cœur à votre petit-fils, plutôt que d'avoir ce texte-là qui est... qui peut effectivement ne pas lui donner envie de réagir du tout.
Bon, écoutez, je vais suivre votre conseil, j'en écrirai un avec un peu plus de tendresse, mais un peu plus de...
Eh ben oui. Et puis l'autre chose aussi dont il va falloir vous munir, ça s'appelle la patience, parce que quelquefois quand
on... Vous croyez que j'en ai pas eu depuis 20 ans.
Non, mais là avec lui, la génération d'après, parce qu'il se peut tout à fait...
Ah oui, d'accord.
Il peut réagir dans 6 mois.
D'accord.
Hein. Ça peut cheminer dans son esprit.
Ah oui, mais ça va, de toute façon, j'attends, hein, ça je suis pas... Ouais. Je n'ai pas encore 95 ans non plus, donc j'ai le temps, j'ai toute ma vie devant moi, j'ai toute mon adolescence à passer, donc je ne suis pas arrivé. Non, mais ça va que j'ai beaucoup d'humour et que je prends les choses quand même du bon côté, mais bon, ça m'interpelle, quoi, c'est tout. Je comprends de l'âge et je pourrais le connaître, quoi. Mais je pense que c'est un côté humain, c'est pas spécifique à William, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être trouvées dans la même situation aussi, et qui ont essayé peut-être de retrouver leur fils ou leurs petits-enfants, mais qui sont... Ils ont peut-être réussi d'ailleurs, je leur souhaite. Puis d'autres, c'est devenu caduc. Mais bon.
Oui, c'est toujours des situations extrêmement douloureuses et difficiles, mais vraiment, ouvrez un tout petit bout de votre cœur et voyez ce qui se passe.
Eh bien, je vais le faire, je vais suivre votre conseil.
Je vous embrasse, William, je vous souhaite le meilleur.
Moi aussi, je vous remercie encore de votre gentillesse.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Et j'accueille maintenant Denis. Bonsoir Denis.
Oui, bonsoir Sabine, ça va? Comment allez-vous?
Merci pour votre patience, je sais que vous avez attendu plusieurs fois et que malheureusement on avait tellement de monde que je n'ai pas réussi à vous accueillir,
oui,
mais ce soir c'est bon.
Voilà, c'est bon. Ben là je voudrais parler de mon alcoolisme, voilà, ça fait depuis quelques mois maintenant que j'ai entamé malheureusement l'alcoolisme. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça, donc voilà, et puis j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, quelqu'un de connu, dont je ne dirai pas le nom et dont je tairai l'identité. Donc, on est tous les deux complémentaires et je pense que c'est lié à des soucis personnels. Moi, je pense que c'est la perte de mon travail et puis le fait que j'aime la personne et que je ne sais pas toujours comment le lui dire parce qu'il y a tellement de gens, autour de nous qui nous parasitent et qui nous empêchent d'être heureux. Et je me rends compte que pour moi, c'est quelque chose de, j'ai du mal à déterminer, parce que c'est vrai que l'alcoolisme, c'est quand même quelque chose d'assez grave, mais bon,
je sais y faire face. C'est courageux d'en parler et d'essayer de comprendre les choses, déjà, c'est intéressant comme démarche.
Oui, mais moi, vous savez, je suis amoureux de la personne, c'est quelqu'un de connu, pour moi, c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans ma vie, c'est quelqu'un qui, comment dire ça, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie et c'est vrai que bon, j'ai connu pas mal de malheurs dans ma vie et puis la personne en question, je sais qu'elle a un côté fragile et je sais, moi je veux l'encourager, je ne veux pas l'enfoncer justement parce que c'est quelqu'un que j'adore, que j'apprécie énormément et c'est vrai que nous, tous les deux, on est liés par ce problème-là mais je pense que voilà quoi. Mais c'est vrai que aujourd'hui j'essaye d'en parler autour de moi parce que voilà, c'est quand même assez compliqué quoi.
Enfin, quand mais moi. Une personne, il s'agit d'un homme?
Oui, c'est ça, Oui. C'est quelqu'un connu, mais je veux pas en parler, je vais pas dire son nom, je veux garder l'anonymat sur ça.
On s'en fiche complètement, Denis. C'est la seule chose que j'entends, moi, c'est que vous avez probablement les mêmes blessures, lui et vous, et que vous êtes en miroir.
Oui, je pense aussi, je pense. Mais c'est pour ça qu'on est complémentaires et tout ça.
Bah,
mais
pas je forcément, peux vous dire que... justement. Vous n'êtes pas forcément complémentaires. Probablement parce que vous vous ressemblez beaucoup.
Oui, mais tous les deux, on a ce penchant pour l'alcool et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de...
Et c'est pour ça que vous n'êtes pas complémentaires, sinon il n'y en aurait un qui pencherait de l'autre côté. C'est que vous êtes en miroir l'un et l'autre, là. Vous avez probablement, vous, une blessure de rejet, quelque chose d'assez dit douloureux dans le passé. Lui, un besoin de reconnaissance.
Et pourtant, moi, je suis quelqu'un qui l'aime. Vous savez, autour de lui, comme autour de moi, il y a des parasites, il y a des gens qui nous... Il y a des gens qui nous font du mal, il y a des gens qui veulent nous empêcher d'être heureux parce que je pense que les gens ressentent une certaine jalousie, une certaine méchanceté aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose de difficile à supporter parce que quand vous-même, vous savez que vous aimez la personne et que vous savez que vous l'aimez profondément et que vous tenez à lui et que autour de vous, moi je le sais parce que bon. Enfin, je ne veux pas trop parler de ma vie, mais c'est vrai que la personne que j'aime, que j'affectionne personnellement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je sais qu'il m'aime et je sais que moi, j'ai des sentiments pour lui et que notre amour est fort et indestructible. Mais à un moment donné, comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont malsains, des gens qui sont méchants, qui essayent de tout faire pour essayer de qu'on ne soit pas ensemble.
Oui, mais Denis, vous savez très bien que dès qu'il y a un peu de notoriété, c'est la porte ouverte à tout ça, hein. Malheureusement.
Oui, mais ça, j'en suis conscient.
Et vous êtes si vous êtes entré dans cet univers-là, vous le saviez dès le départ. C'est un côté très gratifiant d'être avec quelqu'un de connu, mais en même temps, c'est un enfer au quotidien.
Oui, mais ça, je sais. Ah non. Ah, c'est un bonheur. Lui, c'est un bonheur.
Bah oui,
c'est un bonheur.
C'est les autres qui.
C'est vraiment un bonheur. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est quelqu'un qui. C'est quelqu'un d'inoffensif, c'est quelqu'un qui est très 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 gentil. Mais moi, je connais ce milieu-là, je l'ai fréquenté, je le fréquente. Mais bon, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas évident d'en parler. Mais pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Il faut que j'en parle parce que moi, la personne que j'aime, c'est quelqu'un que j'aime. Donc si m'écoute. Je lui envoie plein d'ondes positives, plein de bisous et je pense à lui très fort. Et je sais que, comme vous dites, je pense qu'il y a une fragilité, une blessure derrière. Voilà. Et ça, bon, c'est très bien d'en parler, de crever l'abcès. Voilà.
Et donc, qu'est-ce que vous allez chercher, vous, dans l'alcool ?
Ah, vous savez, beaucoup de choses, hein. Je pense qu'il y a eu les dépressions, il y a eu le fait que je cherche du travail, que je trouve pas de travail, le fait que... Le fait que l'homme que j'aime veuille que je commence ma transition pour que je parvienne à la transidentité et tout ça, je pense que ça aussi, ça doit le travailler et tout ça parce qu'il aimerait bien que ça puisse aboutir. Et moi, je ferai tout ce qu'en mon pouvoir pour que ça puisse aboutir.
Donc, je me suis engagé au sexe.
Voilà, c'est ça. Je me suis engagé auprès de lui. Et voilà, donc peut-être est-ce qu'il a peur que les choses n'avancent pas, mais moi, je serai toujours là pour lui et j'irai jusqu'au bout pour lui parce que c'est quelqu'un qui compte énormément dans ma vie. C'est quelqu'un qui m'a... Ah oui, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a... Ah oui, je sais pas comment le dire. C'est fabuleux. C'est un être extraordinaire. C'est quelqu'un de merveilleux, franchement. Et j'ai cette chance-là. Donc, je ferai tout pour... changer de sexe, je sais que ça prend du temps, mais c'est pas grave, je mettrai le temps qu'il faudra, mais pour moi, c'est très important, quoi. Voilà, c'est très important.
Mais Dini, vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que vous allez chercher dans l'alcool ?
Ah, ben peut-être, je sais pas, j'essaye de pouvoir oublier ou de pouvoir penser à autre chose, quoi.
Oublier ouais. Quoi ?
Ben, je sais pas... Je sais pas, oublier le décès de mes parents, essayer de me reconstruire, je sais pas, c'est compliqué quoi. Moi, je sais que l'année 2019 a été une année particulièrement compliquée, et là, l'année 2020, j'aimerais bien pouvoir être heureux et pouvoir faire les choses normalement. Voilà.
Est-ce et que ça, vous c'est... avez, avant l'alcool, est-ce que vous avez tenté de vous faire aider ?
Oui, mais bon, c'est compliqué pour moi. Je veux pas me faire aider parce que j'estime qu'avec l'homme de ma vie, il aime ça et moi j'aime ça. Donc voilà. Donc je pense que ça c'est très compliqué, je pense.
Non, je parle pas de l'alcool. Je parle parce que quand vous dites, par exemple, j'essaie d'oublier le décès de mes parents, c'est bizarre comme pour moi comme formulation. On n'oublie pas un décès, on travaille dessus pour faire le deuil.
Oui, pardon. Excusez-moi, c'est pour faire le deuil. Oh, je me trompe.
Non, c'est pas ça ma question, c'est peu importe les mots, mais sur le fond, est-ce que vous avez fait une thérapie ? On va être clair.
Non, j'ai pas fait de thérapie, oui, c'est ça. Je sais pas si je vais en faire.
Donc, vous gardez toutes les blessures et pour les cicatriser, vous les arrosez d'alcool ?
Je sais que c'est pas bien, mais voilà, je sais que c'est une addiction, mais bon, peu importe, j'essaye. Enfin, c'est compliqué, hein, Je pense que les gens ont du mal à comprendre et à cerner la vie quand elle vous a pas fait de cadeau et que la vie vous a malheureusement ne vous a pas été toujours été très bénéfique quoi.
Mais ce qui est paradoxal dans votre histoire, c'est qu'aujourd'hui elle a l'air plutôt belle la vie maintenant, enfin.
Oui, enfin. Et oui, mais la vie est belle, mais bon, elle est compliquée quand même parce que autour de nous il y a des parasites, il y a des gens qui nous harcèlent, des gens qui nous pourrissent la vie, il y a des gens qui nous rendent la vie impossible. Et on aimerait que ces gens-là dégagent de notre vie, mais on ne peut pas comprendre le mal que ces gens font. La méchanceté, là, c'est vraiment lamentable, quoi. S'en prendre à des gens comme ça, en plus, l'homme de ma vie, c'est quelqu'un de bien et... Mais bon, franchement, je suis. Non, mais écoutez, je suis tellement heureux de parler de lui parce que pour moi, ça a été la plus belle chose de ma vie et je continuerai à me battre jusqu'au bout parce que je l'aime et je crois en notre amour. Donc voilà. Et pour moi, je vais faire tout ce qu'il me dit parce que c'est quelqu'un de bien. Voilà.
Alors, je vais vous rappeler une règle de base, Denis. Les autres n'ont que l'importance que vous voulez bien leur donner.
C'est pas la question que je veux leur donner de l'importance.
Bah si, ceux qui vous pourrissent la vie, ne leur accordez aucune importance. Vous pourrissent la vie, c'est que vous voulez la laisser pourrir.
Mais justement, je veux pas me laisser pourrir parce que ces gens-là, ce sont des gens qui sont pas intéressants, ce sont des gens qui sont méchants, qui ne font rien dans leur vie que de passer leur temps à faire du mal et à mépriser les gens.
Peu importe, ce qui sort d'eux, Vous leur laissez, ça ne vous appartient pas, vous n'êtes pas obligé de le prendre.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais il y a trop de barrières entre nous, il y a trop de gens qui vont. Il y a trop de gens. Et ces gens-là, je ne les supporte plus, je ne veux plus en entendre parler. Je veux qu'on nous je veux qu'avec l'homme de ma vie, je veux qu'on nous laisse tranquille et qu'on nous laisse vivre notre relation. Voilà. Parce que les autres personnes, c'est. Vous ne pouvez pas comprendre le mal qu'ils font. Et j'espère qu'un jour, sans être méchant, j'espère qu'un jour ou l'autre, ça leur retombera dessus. Parce que vraiment,
alors,
il y a
concrètement,
eu.
Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour qu'on vous foute la paix, comme vous dites?
Ben, foutre la paix, c'est que je voudrais être seule, pouvoir parler à l'homme de ma vie sans qu'il y ait toujours.
Je vous demande pas ce que veut dire foutre la paix. Je vous demande concrètement, qu'est-ce que vous faites pour que ces gens-là arrêtent de vous embêter?
J'essaye de pouvoir me connecter le soir, j'essaye de pouvoir lui parler, de rentrer en contact avec lui le soir, de lui parler, mais c'est pas évident parce que c'est. En plus, il y a. Non, mais c'est assez compliqué quand même en soi, donc voilà.
Donc vous ne vivez pas ensemble?
Non, mais un jour, on espère concrétiser ça et c'est quelque chose auquel on va réfléchir, quoi. Pour moi, c'est très, très important. Très, très important, quoi. Ah, mais moi, je tiens à lui. Pour moi, c'est.
Oui,
ah,
j'ai bien compris, Denis, j'ai bien compris.
Oui, mais, non, mais je sais bien.
Du coup, pour l'alcool, comment est-ce que vous souhaitez vous avancer pour vous libérer de ça? Parce que c'est pas constructif, hein.
Je sais, mais.
Est-ce que vous avez envie au moins d'en sortir?
Oui, mais peut-être, mais il y a aussi cette forme de fragilité, cette forme de blessure, comme vous dites. Donc, c'est vrai que c'est. Enfin, moi, je sais pas comment dire, c'est assez compliqué, quoi. Voilà, je pense qu'il y a une blessure, je pense qu'il y a une fragilité en soi.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je vous disais qu'une blessure, ça cicatrise pas à coup d'alcool. Ça cicatrise en travaillant avec des mots et avec un thérapeute.
Oui, ça je sais.
Et quand vous serez suffisamment solide, il n'y aura plus besoin d'alcool.
Mais ça, je sais, mais bon. Vu que je pense qu'on est fragiles tous les deux et que voilà, quoi. Donc après, il ne faut pas juger les gens non plus, hein. Voilà, par rapport à ça, quoi.
Oh, je ne vous juge pas du tout. Je vous souhaite au contraire le meilleur et j'aimerais que ce chemin soit sain et plein de bonheur.
Ah, mais moi aussi, je le voudrais. Je ne demande que ça, mais franchement, je demande que ça, c'est, pour moi, c'est un, moi, si ce soir il m'écoute, je veux lui dire que je l'aime, que je pense à lui tout le temps et que pour moi, c'est le plus beau cadeau, la plus belle chose qui puisse m'arriver et que très bientôt on soit réunis ensemble et qu'on arrive enfin à terme de ce qu'on veut, ce qu'il veut que j'entreprenne, que moi, je veux faire pour moi et pour lui, parce que c'est très important, c'est pour, ce changement de sexe, si j'y arrive, ce sera la plus belle chose et la plus belle preuve d'amour. Je pense que c'est ce qu'il veut à long terme et je ferai tout ce qu'en mon pouvoir pour y arriver, quoi.
Écoutez, voilà. Denis, je vous souhaite vraiment de trouver ce bonheur que vous méritez vraiment, tous les deux.
Ouais, je sais bien.
Prenez bien la bonne distance émotionnelle avec tous ces gens toxiques.
Ouais.
Et prenez soin de...
Ah, mais des fois, c'est étouffant. Hein.
Prenez soin de vous, c'est pénible, c'est dur.
Ah oui, mais des fois, c'est étouffant. On a l'impression que c'est... Que ces gens-là, ils sont toxiques. On a l'impression qu'ils sont là, et ils sont là pour vous cacher votre vie, pour vous étouffer, pour. Ah, mais c'est incroyable.
Il va falloir. Denis, il va falloir qu'on se quitte. Il y a des informations qui arrivent.
D'accord.
Prenez soin de vous.
Est-ce que je pourrais avoir une photo dédicacée, Sabine?
Je vais faire de mon mieux. Je vous embrasserai très fort.
D'accord. Merci beaucoup. Hein. Merci encore pour votre émission qui est géniale. Merci encore.
Au revoir, Denis.
Au revoir.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin. We'll be right back.
Vous êtes sur Europe 1, sur la Libre Antenne, nous sommes encore ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin, ça nous laisse une petite heure encore à passer ensemble. Vous pouvez bien sûr continuer à composer le 39-21 si vous souhaitez passer à l'antenne. Hassan est au standard, il attend vos appels. Pour participer par SMS, vous faites le 7-39-21 en commençant bien par le mot « nuit ». Et par mail, libreantenne en un seul mot, @europe1.fr. Et à propos de SMS, j'aimerais demander à la personne qui vient nous envoyer un SMS qui souhaite parler du décès de sa maman, de nous renvoyer un SMS avec son téléphone, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et c'est l'appel de François que je prends maintenant. Bonsoir François.
Oui, bonsoir Sabine.
Soyez le bienvenu.
Merci à vous.
Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ce soir ?
C'est un peu compliqué, je ne sais pas trop par où commencer. Et puis bon, je sais que le temps m'est d'autant plus limité. Pour être dans le vif du sujet, je ne me sens pas très bien depuis des mois, peut-être plus d'un an. J'ai déjà connu dans le passé des périodes dépressives. Je pense que j'en suis un peu là, même si je ne veux pas me l'avouer.
Mmh. Alors, des périodes dépressives ou des vraies dépressions ?
Des vraies dépressions, oui. J'ai connu dans mon existence de vraies dépressions. Et là, je pense que je remets la main à une dépression qui m'avait pas mal abattu en 94, hein, où les événements, le point de départ était une rupture sentimentale qui avait déclenché cela, et j'ai fini par disparaître pendant plusieurs mois à l'insu de ma famille, qui était inquiète forcément. Donc il s'était passé, 3-4 mois à cette période-là où j'étais livré à moi-même, à ne plus savoir où j'étais, plus savoir ce que je faisais, à sillonner les routes de France et de Navarre, et jusqu'à un moment donné où il y a un point de non-retour. Je suis remonté, tant bien que mal, dans ma région d'origine, qui est la Touraine, et là j'ai flanché, et je me suis retrouvé en convalescence chez ma sœur pendant plusieurs mois.
Comment avez-vous soigné cette grosse dépression-là que vous mentionnez ?
Ben c'est soigner ce que j'avais à l'époque sur Tours, un excellent médecin généraliste qui avait des aptitudes en psycho. Donc je le voyais au début chaque semaine, après c'était un peu plus espacé, donc c'était à travers les échanges avec lui, et puis forcément la compagnie d'antidépresseurs et d'anxiolytiques que
j'ai eu. Donc vous aviez vraiment soigné tout ça.
Oui. Et puis lorsqu'il m'a semblé aller un peu mieux, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans le milieu des casinos. On m'avait suggéré qu'il y avait de nouvelles machines qui rentraient, que ça pouvait m'intéresser, enfin je fais court, et ça s'est fait comme ça. Donc c'est vrai qu'à cette époque, je me demandais un peu où je tombais, parce que j'arrivais d'une époque où je n'avais plus un sou ou un franc pour manger. C'était un franc pour manger ou 5 francs pour mettre dans la voiture. Alors, c'était une période où j'avais déjà tout perdu à cette époque. Et donc, il a fallu que je me familiarise avec ces gens qui dépensaient de l'argent au point que je ne m'imaginais pas qu'on en dépensait autant dans des machines.
Ah, c'est le choc des cultures, là, d'un coup, oui.
Ah oui, c'était... J'ai pris ça, j'ai cherché comme s'il y avait quelque chose à voir ou à comprendre là-dedans. Là, t'arrives d'une période où t'es dans la neige, hein, on va parler simplement, et tu te retrouves du jour au lendemain dans des lieux où tous les soirs tu te soulèves et tu comptes des sauts de 30 ou 40 kilos de pièces. Franchement, j'étais pas dans mon univers. Et puis après, bon, bah, je m'y suis fait chemin faisant, et après j'ai fait des connaissances, donc bon, ça a reparti. Mais c'était comme un renouveau dans ma vie, parce que j'ai arrêté ma vie précédente s'arrêtait à partir de ce moment-là. Et puis ensuite, ben voilà, ce sont mes nouvelles connaissances qui sont devenues des nouvelles amitiés pour certaines. Et donc déjà, là, j'avais une coupure de vie. Et là, j'ai de nouveau une coupure de vie aussi. Donc,
c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ?
Ben, qu'est-ce qui se passe déjà ? Bon, moi, il y a trois ans, donc j'ai continué dans le milieu des casinos à l'époque. Et c'est un métier qui, avec le temps... m'a pas passionné déjà de par les horaires, de par des promesses non tenues, de par tout un milieu qui est quand même particulier. Hein. Je ne vais pas le dénigrer là à l'antenne, mais c'est très particulier en fonction de qui on est. Dans la hiérarchie, on est plus ou moins récompensé, enfin, etc. Moi, mes périodes de mutation, par exemple, une mutation, ben, les frais devaient être payés, par exemple, et mes mutations qui étaient censées être des promos, c'était de ma poche. Donc déjà, ça partait mal, quoi. Et puis, et je suis tombé après dans deux établissements, on va dire, ben, les directions n'étaient pas forcément à la hauteur. De m'accompagner pour persévérer et puis pour prospérer dans cette activité. C'était des petits casinos et qui fonctionnaient pas bien, dont un finit par fermer avec le temps. Et il s'avère que en 2015, deux ans avant, une nouvelle directrice où j'étais a été nommée. C'était une personne qui était pervers narcissique avec l'ensemble du personnel. Moi, j'étais un des rares à tenir ou essayer de tenir. Et puis, à un moment donné, j'ai vu que ça n'irait plus. Donc là, pareil, je commençais à pencher un peu de l'autre côté. Et donc, à partir de là, j'ai pris un arrêt de travail. On a négocié une rupture conventionnelle. Mmh. Donc, j'avais 50 ans lorsque j'ai fait cette rupture conventionnelle. Mais moi, 50 ans n'était pas un problème pour moi pour retrouver un travail, chose qui s'est avérée, puisque après j'ai fait toute autre chose quelques mois après. Je me suis formé à un poste d'encadrant technique professionnel et social, c'est-à-dire une personne qui s'occupe, qui est à charge des personnes en réinsertion sociale. D'accord. Et là, j'ai découvert quelque chose comme une nouvelle vocation. Donc j'ai fait ça quelques mois pour une association de Charente-Maritime, pour un remplacement et puis un deuxième remplacement, après une période un peu plus longue, et voilà. Donc je n'ai pas de contrat à durée indéterminée à ce jour. Là j'ai fait un remplacement de nouveau, là, novembre, décembre, janvier, qui s'est terminé le 16 janvier. Mais bon, en attendant, moi, depuis, financièrement, là, ça commence à me plomber aussi. Côté santé, c'est pas le top non plus. Bon, il y a des choses que je veux pas parler là. Et puis, côté solitude, oui, avant, je me disais bien tout seul et je me rends compte qu'aujourd'hui, la solitude me pèse. Hein, et...
mmh. Donc, voilà. Qu'est-ce que la dépression d'avant dont vous me parlez, qu'est-ce qu'elle vous a appris sur vous ?
Qu'est-ce qu'elle m'a appris sur moi ? Qu'est-ce qu'elle m'a appris ? Que j'étais trop attaché à la personne, malgré les difficultés qu'il y avait dans cette histoire de couple, j'étais très attaché à cette personne. Et bon, c'est pareil, si cette séparation à l'époque, si elle a eu lieu, c'est que de tierces personnes se sont un petit peu mêlées de ça, sans entrer en détail, que ce soit l'ex-mari même de cette compagne, aussi bien que sa belle-mère. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est des choses que j'ai gardées pour moi longtemps, mais à un moment donné, je n'ai pas pu le garder, ça a un peu explosé, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai appris de ça ? C'est que la relation n'était pas... saine, je ne sais pas si c'est le mot, mais elle n'était pas d'aplomb au départ.
Mmh. Et si on remonte un peu jusqu'au socle, aux bases de votre vie, est-ce que vous avez une enfance équilibrée ? Est-ce que vous avez été un enfant voulu, aimé ? Est-ce que vous étiez stable à ce moment-là ? Ou déjà il y a des blessures qui ont commencé à s'installer ?
Oui, non, déjà il y a des blessures. Déjà il y a des blessures, parce que... Pour tout vous dire, j'avais conversé avec quelqu'un il y a quelques mois, là, et j'ai commencé, pareil, une thérapie par le biais, notamment, par moment, de l'EMDR. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de résultat concluant. Donc, effectivement, j'ai des choses, oui, qui sont senties, que j'ai pu exprimer, qui, pour moi, ne représentaient pas, en y pensant au présent, un traumatisme tel qu'on l'entend. Mais, effectivement, il y a des choses que j'ai mal vécues pendant l'enfance, ainsi que mon frère, j'ai un frère cadet, et puis ma sœur aînée aussi, on en parle parfois. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses, oui, qui nous ont traumatisés, le mot est fort, mais...
blessés, marqués, ben oui.
Blessés, marqués, oui, oui.
C'est ça, quand je vous dis qu'est-ce que la dépression vous a appris, c'est souvent ça permet d'aller creuser un petit peu, de comprendre sur quoi on s'est construit et pourquoi on n'est pas stable, pourquoi ça tangue.
Ben oui, 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 mais...
Parce que là, vous avez mentionné votre couple, mais je pense que cette histoire de couple, ce n'était que la conséquence d'autre chose de plus ancien.
Ah oui, mais j'en suis conscient, parce qu'entre-temps, bon, j'ai eu d'autres relations de couple, bon, et qui se sont terminées plus ou moins de la même façon aussi. Déjà, comme j'expliquais une fois à une personne, déjà, mes parents, dans leur ménage, c'était des gens qui s'engueulaient, vous voyez ce que je veux dire. On vivait dans un milieu modeste, on vivait dans des endroits confinés. À une période de la vie, c'était difficile financièrement pour mes parents, dans le sens où mon père, qui était ouvrier maçon, est tombé jeune, à 49 ans, est tombé en invalidité. Donc forcément, il n'y avait pas les mêmes ressources que certains de mes camarades. Donc ça, on avait tendance à en souffrir et puis pas forcément le comprendre quand on est plus jeune. Donc oui, ce milieu-là, oui, nous a un peu... Oui,
oui, puis j'entends quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la fidélité inconsciente. C'est-à-dire que vous mentionnez des histoires d'argent petit, on vous a déjà appris que petit, l'argent était un problème.
Oui, on était bien.
Et là, c'est revenu dans votre vie avec cette image assez forte dont vous parliez tout à l'heure, qui est d'un seul coup de se retrouver dans un casino, ce qui est assez surprenant.
Ah oui, mais ça, j'ai cogité longtemps là-dessus.
Et oui, ça parle tout ça, bien sûr que ça parle.
Ah oui, ça c'est...
Et puis, papa en invalidité qui n'arrive plus à avoir ce qu'il mérite, et vous qui, comme par hasard, avez un boulot qui capote.
Et oui.
À la même période de vie, à peu près au même âge.
Et oui, au même âge, en fait. Oui, j'ai pas vu cet aspect-là. Oui, c'est vrai, oui. Bah oui, parce que mon père avait 49 ans, donc 49-50, et moins 50 ans, ce que j'ai arrêté en 2015. Oui, c'est vrai que ça, par contre, c'est vrai que j'ai cherché des hypothèses ou des choses, mais pas forcément dans la bonne direction. Oui.
C'est ce qu'on appelle en thérapie la fidélité inconsciente. Ou quelquefois, on ne s'autorise pas à réussir quelque chose que papa ou maman n'ont pas réussi au même âge.
Ouais, ça me parle ce que vous me dites là, oui.
C'est ça qui est intéressant, vous voyez, quand on prend le temps, quand on fait un pas de côté comme vous le faites ce soir, oui. Ça permet justement de voir les choses d'un autre angle, et avec un autre éclairage, de se poser peut-être d'autres questions, et du coup forcément d'avoir d'autres réponses pour avancer. Et en plus, moi, ce que j'entends dans votre histoire de vie, c'est que tout à l'heure, vous mentionniez plein de choses qui n'allaient pas, mais du coup, vous avez... peut-être oublier les choses qui vont bien. Moi, ce que j'entends, c'est qu'après cette histoire de casino, vous avez drôlement bien rebondi, vous vous êtes formé, vous avez retrouvé un
autre.
Et quand même, c'est pas rien, ça.
Ben oui, sur l'instant, en plus...
Vous me racontez ça comme si c'était au beau tuyau, en fait. C'est énorme ce que vous avez réussi à faire.
Le peu que j'ai pu évoquer ça à mes proches du moment, là, j'ai cette sensation, parce que le moment où... Pardon, cette rupture conventionnelle a été mûrie depuis des mois, depuis peut-être même un ou deux ans, je ne sais plus. Et ça s'est fait comme ça, un matin, je sentais que je partais vers une période, une pente savonneuse un peu, là, et un matin, je vais reprendre, j'ai eu 3 jours de congé, j'ai appelé mon médecin traitant pour qu'il me voie, et puis le but c'est d'avoir un arrêt de travail, parce que là j'avais vraiment plus la pêche d'aller travailler. Et suite à ça, donc j'ai appelé ma directrice, je lui ai fait part en lui disant bien que c'est moi qui donnerai des nouvelles et que moi le casino c'est pas la famille, contrairement à ce qu'elle disait haut et fort à tout le monde. Ou alors elle avait une drôle de façon de gérer sa famille, ça c'est autre chose. Et donc voilà, jusqu'à un moment donné, donc tous les mois, je l'appelais pour lui confirmer le renouvellement de l'arrêt de travail. Et donc à un moment donné, je lui dis voilà, si tu souhaites qu'on se rencontre, il n'y a pas de problème pour moi. Donc dont le but c'était de négocier cette rupture. Donc effectivement, il y a eu la procédure, la rupture s'est faite et la journée où la rupture a été actée, j'ai ressenti mais comme un soulagement.
Parce que vous êtes écouté, ça c'est vraiment bien.
Oui, c'est ce que
suivi,
c'est.
Mais bien sûr, c'est très important ça.
Au même titre qu'il n'y a pas longtemps, j'aurais pu avoir un poste encore dans un casino où je suis déjà allé, mais là justement, plus rien n'y était à cet entretien. Et là, je me suis écouté, j'ai décliné, et il y a eu quelque chose, je sais pas, un petit truc qui vient de je ne sais où, au moment où j'allais accepter, parce que là, à un moment donné, il va falloir que j'accepte. Tout ce qu'on me propose. Et à ce moment-là, il y a un coordinateur de l'association qui m'emploie au sein des brigades, enfin je vais citer, ce sont les brigades vertes, le poste où je fais encadrant. Mmh. Et là, c'était une bonne aubaine parce que spontanément, je lui dis, ok, tu peux compter sur moi, même si lui, c'était pour 2 mois. Voilà, j'ai écouté mon cœur, c'est ce que j'ai dit. Voilà. J'ai les amis chez qui j'étais dans le Limousin. Là. J'ai écouté mon cœur. Voilà,
Et là, à ce moment-là, la vie est venue vous montrer quelque chose. Elle vous a mis au début de 2 chemins possibles.
Et oui, tout à fait.
Et parce que vous avez écouté votre cœur, vous avez pris le bon chemin, justement.
J'ai pris le bon chemin pour ce qui était pour moi pour le présent, parce que bon, une fois encore, ce poste dans le Limousin, là, c'était un CDI et c'était de nouveau dans les casinos, chose que je n'ai plus envie. Et là, c'était que pour 2 mois dans les espaces verts. Mais j'ai pas mis 2 heures à choisir, quoi. C'était spontané.
Oui, et peut-être que ça n'est qu'un marchepied vers autre chose encore.
Mais je me le dis aussi, oui, mais le problème, c'est que maintenant, le temps passe, et puis que moi, il y a tout un tas de raisons qui font que, oui, au quotidien, même sur le plan de la santé, où je ne vais pas très bien. Donc, effectivement, d'avoir un travail, ça me booste et ça me sort de chez moi. Ça ne m'handicape pas sur le plan professionnel, on va dire. C'est des complications qui font que, voilà, des personnes, quand on arrive à un certain âge, qu'il faut, voilà, quoi. Moi, je ne peux pas trop développer là. Mais... Donc c'est vrai que j'ai des baisses de morale quotidiennes et je ne sais pas comment m'en sortir.
Et pourtant, il y a plein de belles choses chez vous. Il y a plein de belles choses chez vous, François. Rien que là, quand on sait, depuis tout à l'heure, depuis que vous me parlez, j'entends un potentiel, un apprentissage. Vous avez compris beaucoup de choses tout seul. On ne vous a pas beaucoup aidé et vous avez déjà compris beaucoup.
Oui, c'est vrai que oui, c'est vrai aussi. J'ai même quelques rares amis, c'est ce qu'ils me disent aussi, voire même la psy que je rencontre. Mais je prends ça un peu comme quelque chose pour booster. Je prends pas ça réellement comme une de mes propres valeurs, si vous voyez ce que je veux dire.
Et voilà, c'est là où le bas blesse.
Ben oui, oui, j'en suis un peu conscient.
Vous n'arrivez pas à vous attribuer les choses positives qui sont de vous, qui sont à vous.
Ben oui, il y a de ça aussi.
Et... Là, il y a un vrai travail à faire là-dessus, parce que quel dommage. C'est vous tout ça. C'est juste vous. Vous êtes bourré de choses positives aussi.
Oui, ben j'en doute bien. On n'est pas tout blanc, tout noir, comme on dit. Ça, c'est évident. Mais voyez, j'ai même des amitiés que j'ai été jusqu'à rejeter, de trouver des prétextes pour ne plus les voir, parce que je suis dans une période où je ne me sens pas bien et que j'ai pas envie de partager avec certaines personnes. Je l'ai fait un peu là à la fin de l'été, puis après j'ai regretté. Maintenant, bon. J'ai des amis qui me sont fidèles, il n'y en a pas 50, mais oui, j'en ai eu un cet après-midi au téléphone, parce que moi je vais passer le voir dans la région de Bretagne, parce que mon boulot a fait que j'ai voyagé un peu en France, donc j'ai un petit peu des pieds à terre, si on peut dire, enfin des gens qui peuvent me... Voilà, que j'ai déjà plaisir à voir, et puis ben, dans le contexte présent, qui peuvent peut-être m'apporter des idées, des déclics pour me reconvertir.
Alors, on va en parler un petit peu plus longuement de tout ça. Je pensais juste à une chose, là, soyez vigilants sur la dépression, parce que vous savez que malheureusement, quand on a fait plusieurs épisodes dépressifs, on sait qu'il y a de fortes chances qu'on en refasse.
Oui, mais je suis au courant. Oui,
donc
oui.
L'avantage, c'est que vous connaissez le schéma et que vous savez identifier ce qui se passe.
Absolument.
Donc ne la laissez pas s'installer, prenez vraiment ce qu'il faut tout de suite. Hein.
Mais ce qu'il faut, alors justement, moi j'ai arrêté, c'est vous parler en matière de
médicaments.
De médicaments, alors justement, je les ai arrêtés. Je les ai arrêtés parce que pour une raison, bon, après tout, ouais, je dis tout rien, donc je dis, il y a quelques temps, j'avais des soucis un petit peu de libido, etc., etc., donc j'ai des gros soucis de ce côté-là maintenant. Donc forcément, ça aussi, sur le moral, ça joue aussi. Et dans les consultations que j'ai eues, il était probable que un antidépresseur que je prenais en prévention contribue à ces effets-là. Lorsque j'ai su ça, progressivement, je l'ai arrêté. Donc je l'ai arrêté depuis 3 mois maintenant. Comme je disais à la psy, je ne me sens pas ni plus ni moins en l'ayant que n'en l'ayant pas. Et donc, bon, en parallèle, ce que je faisais pas avant, c'est que je consulte de temps à autre, parce que c'est pareil, c'est un coût aussi. Je consulte et voilà, donc j'essaie. Par contre, en ce moment, je manque vraiment d'énergie, parce que je suis quelqu'un d'assez volontaire, qui va aller volontiers marcher ou choses comme ça. Mais j'ai beaucoup de mal à le faire aujourd'hui.
Mais, oui. Mais c'est malheureusement le propre de la dépression. C'est comme si d'un seul coup, on était débranché.
Alors...
Alors,
vous voyez, oui.
Je vous écoute, François.
Non, là, durant 2 mois, donc, j'ai eu une mission d'encadrant là, au sein des espaces verts, donc, qu'on m'avait proposé, ça s'est très bien passé. Donc, comme je disais à mon ami, un ami au téléphone, dans mon esprit, j'étais pas pleinement comme j'étais les fois précédentes, mais au moins, il y avait un lien avec les salariés en parcours qui m'étaient confiés. Il y avait un intérêt de se lever le matin, d'aller faire ses travaux. En plus, j'avais une équipe de gars qui étaient corrects et qui bossaient vachement bien, parce que bon, parfois on peut avoir des publics un peu plus récalcitrants, mais là j'avais vraiment pas le cas. Donc au moins ça c'était un plus. Vous voyez, moi ce qu'il me faut dans un premier temps, c'est un emploi, et même un emploi justement dans le social, ça me convient, où il y a la réalité dans les contacts humains. Pas des trucs comme j'ai pu connaître dans les casinos où on prend les salariés, j'étais employé cadre, hein, mais on prenait les salariés comme des chiens, et ça ne me convient pas. Et moi, cette directrice de l'époque ne pouvait pas me faire faire des choses comme ça auprès des salariés. Et forcément, là, ça coinçait.
Alors concrètement, je voudrais juste d'abord vous lire 2 petits messages. Il y a Brigitte qui nous dit « François est vraiment touchant et a beaucoup de courage ». Et il y a Anna qui aimerait échanger avec vous et qui nous laisse son portable. Donc on transmettra si vous en avez envie.
Maintenant, absolument.
Pour vous aider concrètement sur le plan du boulot, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Dans quel coin êtes-vous? Quelle serait la proposition intéressante pour vous?
Moi concrètement, donc c'est vrai, comme j'ai pris à cœur ce travail d'encadrant technique, alors que là j'expérimente dans les espaces verts, effectivement je préfère, mais après il y a d'autres activités qui sont liées à ça. Ça touche différents domaines. J'ai quelqu'un qui m'intègre et qui m'adapte assez facilement. Donc, peu importe le secteur, on va dire, d'activité. Mais dès l'instant, on arrive si j'arrive à décrocher un CDI, ce que maintenant, moi, ce qu'il me faudrait, c'est le CDI, parce que je ne peux pas attendre éternellement un éventuel poste à courte durée. Donc ça, les régions, peu importe. Donc moi, la priorité, effectivement, là, pour m'éviter de trop grands déplacements, sur la Charente-Maritime. Mais vous voyez, la semaine dernière, je me suis rendu à un entretien. C'est une association qui gère les Restos du Cœur, justement, pour les Jardins du Cœur. C'était à Saint-Nazaire, dans la Loire-Atlantique. J'y suis allé. Donc là, je n'ai pas été recruté, parce que déjà, l'embauche était quasi immédiate. Et j'avais moins de connaissances qu'un autre candidat au sein du maraîchage bio. Mais après, ça, quoi, c'est une période d'adaptation. J'arrive en tuilage à m'adapter aussi. D'autant plus que là, c'était pas une super production non plus. Vous pouvez. Donc voilà, donc je cherche.
Donc plutôt quand même dans l'Ouest.
Dans l'Ouest, dans le Morbihan, où je me rends aussi. J'ai un ami qui a plusieurs touches pour moi, parce que c'est une région où j'ai vécu 4 ans aussi, et puis bon, qui me parle aussi. Donc voilà, éventuellement la région Centre, d'où je suis originaire, c'est pareil. Ouais, ce week-end, j'ai contacté une association à Poitiers, pareil, bon, qui rémunérait pas trop mal aussi, mais bon, voilà.
Et puisque, autant accrocher notre chariot à une étoile, comme on dit, le boulot idéal, ce serait quoi?
Ah ben, le boulot idéal, c'est ça, le boulot idéal, c'est ça, c'est un poste de cadre, ou un poste d'animation, de pouvoir être à même à apporter aux gens, déjà, donc un poste d'encadrement en adéquation avec mes compétences, bien entendu, hein. Donc là, dans l'immédiat et dans l'urgent, ce qui se présente là, au sein des espaces verts, déjà je m'y épanouis. Quand j'ai découvert ça il y a 4 ans, je supposais pas que je m'épanouirais au grand air, et finalement je suis nettement mieux dans des espaces verts. On découvre des choses, il y a du petit patrimoine à faire, tout ça, c'est hyper intéressant. Et la façon de former les gars, là, c'est valorisant pour eux aussi.
D'accord, c'est encadrer des gens dans ce domaine-là, en fait.
Oui, et puis aider partager, ces gens qui sont en difficulté, parce que, comme je disais à une amie, là, que j'ai rencontrée il y a 2 jours, ces personnes qui sont en parcours ne sont pas toujours bien considérées par certains encadrants. C'est des gars qui sont là, il faut faire le boulot, point final. Moi, je vois pas ça du tout comme ça. Ces gars-là, ils sont là pour reprendre confiance, pour reprendre. Et ce côté social, j'ai des collègues, ils s'en foutent. Puis moi, par contre,
j'attache avec le cœur, vous, j'ai l'impression.
J'attache à cet intérêt du travail bien fait. Ouais. Et puis, bien entendu, ça part de ça, parce que bon, le client, on va dire, c'est une municipalité ou une collectivité, donc à partir de là, voilà. Mais faut s'adapter aussi au public qu'on a. Ils sont là pour apprendre. Il y a des gens qui reviennent de loin, qui ne sont pas levés le matin depuis des lustres, etc. Donc ça, mais en le faisant bien, on arrive à des résultats, ces choses-là. Et après, on passe sur autre chose. Moi, c'est ce côté-là qui m'intéresse vivement.
Alors écoutez, on va lancer un appel. Vous savez, quelquefois, il y a des miracles sur cette antenne.
Oui, je sais.
Donc
oui.
Si vous qui nous écoutez, vous avez un travail à proposer à François, appelez-nous 3921. Pensez au mail libreantenne@europe1.fr ou les SMS 73921 en commençant bien par le mot nuit. Bien évidemment, on vous transmettra tout ça, François.
C'est très gentil à vous, j'apprécie la démarche. Oui.
Et sur le plan psychologique, réfléchissez à ce dont on a parlé tout à l'heure, cette fidélité inconsciente-là.
Hein. Oui.
Et autorisez-vous à vous libérer de ces chaînes-là. Donnez-vous le droit à vous-même d'être heureux et de réussir.
Mais oui, je vois un peu ce que vous voulez dire. Oui, c'est vrai que parfois on m'a fait des allusions parfois aussi. Mais ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? On se refait pas comme ça d'un coup de baguette magique non plus, quoi.
Non, mais un pas après l'autre, oui.
Peut-être, oui. Hein ? Peut-être, ouais.
Laissez le temps de faire maturer tout ça et ça va sûrement déboucher sur une nouvelle compréhension des choses et probablement des changements.
Mais c'est vrai, comme je disais à cet ami cet après-midi, là, il y a des jours, je suis mais incapable de rien faire, incapable de... Et je ne comprends pas pourquoi, je suis comme bloqué, tétanisé. C'est un peu ce que j'expliquais à ma psy la semaine dernière, ce sentiment d'être tétanisé alors qu'il n'y a pas de tout. C'est curieux, ça, des
moments de panique. Vous savez, c'est le propre de la dépression. Vous êtes exactement dans ça, là. Pensez en ce moment, dans cette période de l'année un peu sombre, à la lumière. Tout ce qui est mettez-vous le plus possible à la lumière.
Oui,
le cerveau a besoin de ça.
Ben oui, chose que je ne fais pas forcément non plus. Je fais les choses mal en ce moment. Comme
et
ça,
ben voilà. Donc nourrissez-vous sainement, buvez beaucoup d'eau, marchez. Notre cerveau a besoin de ça. Ce n'est pas une baguette magique.
Chaque
jour, ce sont des choses qui aident à aller mieux.
Et la lumière, non, mais je suis absolument
conscient. Quand on est en phase
dépressive
comme ça, vraiment.
Quelque part, il y a des jours où je me sens terriblement abattu, recroquevillé, avec même des idées de allez, je suis cash, hein, je suis quelqu'un de sincère, avec des idées noires. Il y a des moments, j'ai vu début janvier être assis, bon, je veux pas faire pleurer à chaumière, mais la nuit, être assis avec le fusil de mon père chargé, et puis être des longues heures à hésiter, à appuyer avec un... Mais c'est douloureux, ça, c'est douloureux, parce qu'on a envie de partir, parce qu'on voit plus l'issue, et puis à notre côté, on se rattache parce qu'on veut pas laisser sa sœur ou son frère emmerder avec ce qui découle de tout ça. Parfois, ce sont les seules choses qui me raccrochent à la vie, le fait de pas laisser le peu de famille, enfin ma famille, oui, ça tient à mon frère. Et...
Mais rappelez-vous aussi que c'est pas vous qui pensez dans ces moments-là, c'est la dépression. Et quand on voit tout en noir, on n'arrive pas à se rendre compte qu'il y a aussi des choses qui sont belles.
Oui, j'en suis convaincu. Je suis le premier à dire quand les choses vont bien, vous savez. Là, je donne une image peut-être, et pourtant, j'essaie de prendre sur moi. Mais en temps normal, moi, je suis le premier. Combien de personnes sont venues chez moi que j'ai pu avoir justement des discours sur les pensées positives, ces choses-là. J'ai beaucoup lu là-dessus. Je me suis beaucoup recherché sur des ouvrages, que ce soit les ouvrages de Lise Bourdeau, les ouvrages de, je ne sais pas, Eckhart, Helt. Enfin, j'ai plein de... Mais à un moment donné, là, ces jours-ci, là, je suis en train de me dire, mais tous tes bouquins, tout ce que tu as lu, toutes tes conneries, ça t'amène à quoi aujourd'hui, où je ne doute même plus, je ne crois même plus par moments. Et des fois, il réapparaît une petite étincelle de quelque chose.
Voilà, c'est le propre de la dépression. Si je peux me permettre un conseil de bouquin qui vous ferait peut-être du bien, c'est le livre de Lionel Goudron qui s'appelle « Le vrai nom du bonheur et la sérénité ».
Je ne connais pas Lionel Goudron.
Lionel Goudron, qui est médecin.
Lionel
Goudron, il est médecin acupuncteur. Le vrai nom du bonheur et la sérénité. C'est truffé de petits conseils, justement pour remonter cette mauvaise pente.
Le vrai nom du bonheur.
Et la sérénité.
Donc Lionel, pardon.
Coudron, C-O-U-D-R-O-N.
le nombre de livres que j'ai pu noter.
Tout ça finit quand même par rentrer. Et là, ce qui vous manque, c'est la petite étincelle qui vous fait redémarrer déjà dans un boulot sympa, qui vous fait du bien, dans lequel vous allez vous épanouir.
Les deux mois que j'ai passé, ça m'a fait, sort le matin. En plus, j'avais une équipe assez relativement sympa. Par rapport à cette équipe qu'on encadre, on n'est pas là pour montrer, ses soucis, voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un exercice qui aide à la fois et qui. Mais non, c'est vrai que dans l'immédiat, on a un emploi plus dans ce domaine-là ou dans le domaine du social qui peut s'exercer d'une autre façon, je n'en sais rien. Et puis en parallèle, je suis à l'affût de ce qui peut se passer aussi, qui puisse être dans mes compétences ou qui puisse déclencher un déclic qui m'amène sur quelque chose. Parce que aussi, j'ai l'inquiétude du temps qui passe. Je vais avoir 55 ans le 1er mars. Donc, vous voyez, 5 ans, je disais, 50 ans, pour moi, c'est pas tard. Je trouverai. Effectivement, j'ai trouvé. Mais entre-temps, d'autres choses me sont... Je fais vraiment qu'un résumé. Après, d'autres choses me sont arrivées dans ma vie. Là, après, cet automne, j'avais rencontré, retrouvé quelqu'un avec qui on avait supposé une histoire amoureuse. Et puis, finalement, c'était peut-être plus platonique. Et puis, il y a eu de la compréhension. On a fini par prendre de la distance, en plus à son initiative, donc ça c'est quelque chose qui m'a perturbé aussi. Et comme je disais à mon ami, j'avais pas besoin de ça, mais c'est comme ça, ça s'est présenté comme ça. Ça m'a mis un coup supplémentaire, ça, depuis ces 2-3 derniers mois.
Mais c'est un peu la même boucle, c'est-à-dire c'est quand je vous disais tout à l'heure, autorisez-vous à être heureux, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. De retourner... quand ça va bien... Ça, comment vous dire, la vie vous met la face à des épreuves qui vous montrent qu'il y a des choses qui ne sont pas encore soignées.
Ah oui, ça pour moi c'est évident.
Vous redressez, vous retombez. Mais en attendant, ce qu'il faut voir, c'est que certes vous retombez, mais vous vous redressez à chaque fois. Et ça c'est vraiment important.
Mais ça m'interpelle cette parole-là, parce que vous voyez, j'ai eu un ami, pareil, notre ami qui m'a appelé, et comme j'ai été quelque temps sur lui répondre, je lui ai décroché il y a 2 jours. Pareil, je lui résume, je suis sûr en ce moment c'est moyen, je te connais, il dit, de toute façon, t'es toujours, oui, merci, tu t'es toujours relevé, t'as toujours, il dit, il n'y a pas de raison que ça change, on se connaît depuis, on a le même âge, on se connaît depuis nos 1 an, et c'est vrai que quand vous entendez cette parole-là, ça vous fait du bien de l'entendre, mais au fond de soi, on n'en est pas convaincu non plus, vous voyez.
Oui, mais quand même, le miroir que vous renvoie les autres est intéressant, et je peux vous dire que depuis que vous avez pris l'antenne tout à l'heure, j'ai plein de SMS de gens qui vous trouvent touchants, qui vous trouvent formidables, vraiment. Plein de messages de soutien, plein de gens qui vous disent courage, vous êtes plein de qualités, vous êtes formidable.
C'est parfois aussi mon défaut de me dévaloriser. Effectivement, j'ai des qualités, j'imagine, comme tout le monde. Mais vous savez, je n'ai pas que des qualités. Il y a plein de choses que je me reproche. Il y a des choses dont j'ai des remords. Il y a des choses que j'ai pas bien fait. Et je veux dire, le fait d'avoir des qualités n'efface pas forcément ces choses-là aussi que je traîne parfois.
Comment ça, vous n'êtes pas parfait?
Je sais bien, j'ai l'impression que quand on vous parle de vos qualités, c'est pour effacer vos défauts, mais il y a des choses que je ne peux pas effacer.
Et bien sûr que non, ce n'est pas pour effacer les défauts. Nous sommes des êtres faits de lumière et d'ombre, il faut un mélange des deux pour être équilibré. Acceptez les jolies choses, François. Avez plein à l'intérieur de vous.
J'imagine, je suis quelqu'un en temps normal, c'est vrai, qui intéresse les gens, qui dit « bon, je sais que... » Mais là, en ce moment, j'intéresse personne, parce que je m'éloigne de tout le monde, à part de très, très rares exceptions, et encore, ces personnes-là, je les vois peu ou je les contacte peu.
En tout cas, vous intéressez certainement des gens, puisque je vais vous passer à Hassan, là, qui va vous transmettre des numéros de téléphone. Et vraiment, je croise les doigts pour que notre appel soit entendu ce soir et qu'on vous propose un boulot intéressant, vraiment.
Je vous remercie. Si c'était le cas, je vous tiendrai informé, bien entendu.
J'allais vous le demander avec grand plaisir.
Oui, c'est...
Ne raccrochez pas, je vous passe à Sam tout de suite, d'accord?
D'accord, bien, je vous remercie.
Et je vous souhaite vraiment plein de belles choses maintenant, François.
Je vous remercie de votre écoute. Et puis, ça m'a reboosté un petit peu ce soir. Donc, c'est déjà
Restez vers votre côté lumineux.
Bon, on va essayer alors, oui.
Allez, je vous embrasse très fort.
Je vous embrasserai fort, Sabine. Merci et tout.
Au revoir. Et un grand merci à vous pour tous vos SMS. Hassan, les SMS pour François, bien sûr, Hassan est en train de le mettre en contact avec tous les gens qui le souhaitent. Vraiment, merci du fond du cœur. Bonsoir à vous, Jonathan.
Bonsoir,
Jonathan, comment vous préférez?
Comme vous préférez. En primaire, on m'appelait Jonathan. À la maison, on m'appelait Jonathan.
J'aime bien Jonathan, spontanément. Donc, si ça vous va, on va partir sur ça.
Ben, ce sera Jonathan, alors.
Qu'est-ce qui vous amène, alors, ce soir?
Alors voilà, avec exactitude, je ne sais pas vraiment comment entrevoir les choses. Donc, ce qui s'est passé en fait c'est que le 2 avril 2018, j'ai perdu ma mère. Elle a fait un arrêt cardiaque dans la matinée. Donc ma mère, moi et mon frère de 47 ans, on vivait tous les trois en Essonne, à Chilly-Mazarin, dans un appartement. Et donc ma nièce m'a réveillée dans la matinée pour me dire « Jonathan, il se passe quelque chose, grand-mère ne respire plus ». J'ai essayé tant bien que mal de la réanimer et j'ai fait ce qui était possible pour essayer de la réanimer, de faire intervenir les soins. Elle a été déclarée décédée dans la matinée.
Quel âge avait-elle?
Voilà. Elle avait 69 ans. Elle allait sur ses 70. Elle aurait eu 70 ans le 12 mai. Le 12 mai 2018.
D'accord. Elle était en bonne santé ou pas?
Pour ainsi dire, non, pas vraiment. Elle avait très souvent des rendez-vous médicaux. Ça faisait partie de son quotidien. Et très souvent, bon, moi, je lui préconisais de faire de la marche, d'éviter de boire du vin, parce qu'elle était quand même une consommatrice régulière d'alcool. Mmh. Elle avait plus d'alcool dans le corps que de nourriture.
Donc elle était fragile.
Il ne lui fallait pas grand-chose pour se sentir faible. Mmh. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que mon frère et moi, on est restés dans l'appartement de notre mère durant plusieurs mois, hein, donc jusqu'au mois de novembre, novembre 2018, hein, ce qui a suivi. Donc moi, je m'étais organisé avec mon frère pour que nous partagions les charges à deux, puisque ma mère et moi, on s'arrangeait les mois pour que les charges soient payées. Moi, je m'arrangeais pour que les frais annexes, comme le gaz et tout le reste, soient payés par mes deniers personnels. Mmh. Les charges du loyer étaient payées par mon frère et ma mère. On s'en sortait très bien tous les trois. Il se trouve un placement sous tutelle de mon frère, puisqu'en fait, il nécessite une protection de tutelle, a été ordonné par la juge des tutelles le 2 juillet 2018. Mmh. Et donc, moi, je suis resté dans l'appartement avec mon frère durant cette période pour lui éviter l'éventuelle expulsion, si vous voulez.
Ce n'est pas vous, son tuteur?
Non, pas du tout. D'accord. On m'a demandé, c'était tout simplement pas possible pour moi. Mon frère, en plus de ça, a un gros problème de relations. Il est insociable, il ne se montre pas agréable. Il a de gros problèmes d'hygiène aussi. C'était tout simplement pas possible pour moi. J'ajoute à ça qu'on est une fratrie de 5 enfants, donc c'est moi le dernier. La demande de mise sous tutelle a été demandée par ma grande sœur qui vit dans le Val-de-Marne. Donc c'est elle et moi qui nous sommes chargés du placement sous tutelle. Hein. Mes deux autres frères et sœurs étaient là juste pour l'enterrement de notre mère, et puis ensuite on n'a pas entendu parler d'eux. Mmh. Voilà. Et donc là, ce qui se passe à présent, c'est qu'il a été effectivement placé sous tutelle. Sa tutrice a été nommée en septembre 2018 et s'est présentée en novembre. Donc une fois qu'elle s'est présentée, bon, bah, moi j'ai pu m'installer dans la Seine-et-Marne avec mon compagnon en novembre 2018. Mmh. Voilà, donc il se trouve que depuis cette période-là, moi j'ai quand même rendu des visites à mon frère pour voir s'il allait bien, s'il manquait de rien, et donc j'ai constaté que les quittances de loyer n'ont pas été réglées depuis que je suis parti.
Ah, pourtant il a une tutrice supposée gérer ça, non?
Pourtant, il a une tutrice, mmh. Effectivement. Donc, moi, en fait, du temps où j'étais seul avec mon frère, j'avais mis effectivement la main sur ses comptes pour m'assurer que les charges soient payées par... parce que mon frère perçoit tout de même une allocation pour handicapés et que le fait d'être handicapé ne dispense pas d'assumer certaines charges, d'autant plus qu'il n'a pas autant de besoins que ça, puisqu'il n'utilise pas de transport, il est tout le temps à la maison... Il ne va jamais chez le coiffeur. Enfin,
donc là, vous revenez, vous constatez qu'il y a un problème.
J'ai constaté effectivement qu'il y avait un problème, qui au fur et à mesure des mois est en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, la quittance de loyer atteint presque 12 000 euros.
Ah oui?
Oui, voilà. Et donc.
Et le propriétaire ne dit rien?
Le bailleur, donc, qui est un bailleur social, justement, maintenant. Recherche un potentiel successeur, successeur de la dette. Donc moi j'ai sollicité la tutrice pour lui demander de faire les démarches pour résilier le bail, et dans la mesure où c'était mon frère qui était le dernier occupant des lieux. Moi je suis parti en novembre 2018 et c'est là où j'ai régulièrement honoré toutes les dettes, hein. Donc j'ai tout réglé, j'ai tout laissé, j'ai même continué d'assurer l'appartement le temps que mon frère soit replacé dans un logement propre. Il se trouve que là aujourd'hui mon frère a pu être relogé grâce à l'aide de l'organisme de tutelle, de protection juridique. Mmh. Mais aujourd'hui mon frère et la tutrice ont laissé une dette de plus de 11 000 euros maintenant. Et aujourd'hui, le bailleur, en fait, me fait parvenir donc à mon domicile, donc à mon nouveau domicile, les quittances de loyer et donc l'adresse, en fait, qu'ils ont réussi à retrouver. En fait, c'était par rapport à mon avis d'imposition que je leur ai envoyé pour justifier de mon changement d'adresse. Mmh. Je leur ai aussi fait parvenir plusieurs courriers recommandés où je les informais que j'ai changé de domicile, que c'est monsieur Intel qui était le dernier occupant et que je le prouve en envoyant mon dernier avis d'imposition. Je trouve que toutes mes lettres ne trouvent aucune réponse. Cependant, on m'envoie les quittances.
Et voilà, ils essayent une dernière fois. Est-ce que ce n'est pas un coup d'esbrousse, hein? Est-ce qu'ils ont vraiment le droit de vous demander ça?
Alors, moi, j'ai essayé tant bien que mal de rentrer en contact avec la tutrice de mon frère pour savoir ce qu'il en était par rapport à la quittance de loyer, puisque celle-ci, en fait, n'a reçu aucun règlement et qu'aujourd'hui, je me retrouve mandaté de régler la dette. J'ai même voulu être de bonne foi, pour ne pas dire bonne poire, en acceptant de solder la dette, de reprendre la dette là où elle est, à la condition qu'une partie soit réglée par les deniers de mon frère. Et donc, elle m'a répondu. Donc, tous nos échanges se sont faits par mail. Elle m'assure qu'elle a réglé partiellement les dettes, alors que l'historique des transactions ne laisse absolument rien apparaître depuis que je suis parti.
Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle est un peu en faute, cette dame. Elle n'a pas assumé ses responsabilités. Donc, essayer de régler le problème avec elle ne me paraît pas une bonne idée.
Oui,
c'est
ce que je me suis dit. Donc, je me suis adressé aussi à la juge des tutelles située dans le département à proximité de l'organisme de tutelle, qui me dit que les litiges avec les bailleurs ne sont pas dans les compétences du juge des tutelles, donc elle est là uniquement pour justifier de la gestion des fonds du protégé. J'aurais aussi également voulu savoir ce qu'elle en a fait, que si aucune des quittances n'a été réglée, qu'est-ce qu'elle aurait fait avec les fonds
fonds, il y a des trucs pas clairs. Hein.
Voilà. Et donc là je suis installé avec mon compagnon depuis un an maintenant. On est dans un appartement à Chelles, Gournay. Et donc on est bien installé, mais je reste encore psychologiquement, en tout cas, coincé par cette dette, puisque je ne peux entrevoir aucun projet.
Pas que psychologiquement, financièrement aussi quand même, c'est pas rien.
Et puis financièrement aussi, donc voilà, je suis en pleine interrogation. Je ne sais pas vraiment dans quel sens je dois regarder ce problème. J'ai même contacté un service d'association pour abus des tutelles sur personnes protégées en espérant avoir une réponse. Et je n'ai pas eu de retour. Je pense qu'ils doivent avoir beaucoup de demandes. Mais seulement, voilà, aujourd'hui, je suis une personne d'une nature optimiste en général. Je vois toujours le bon côté des choses, mais là, je n'ai plus aucun entrain.
Attention, optimiste certes, mais ne vous laissez pas marcher dessus quand même. Hein. Est-ce que vous avez pensé à contacter un avocat fiscaliste?
Alors, je travaille comme employé administratif pour un comité d'entreprise où on dispose justement d'une conseillère juridique en fait, hein, qui est prise en charge par la société. La société pour laquelle je travaille, qui intervient, qui fait une permanence tous les mois. Je lui ai exposé mon cas et ce qu'il en revient maintenant, c'est que on a eu dernièrement un entretien avec le service contentieux du bailleur qui me demande de restituer les clés avec une signature pour la résiliation du bail. Seulement, cette conseillère juridique me dit aussi qu'il faut aussi noter un détail non des moindres, c'est qu'une résiliation de bail équivaut à une reconnaissance de dette.
Le piège.
Et voilà, donc on me dit tout ça par téléphone, mais on refuse de me demander tout ça par écrit. Et donc mes frères et sœurs ont tourné les talons aussi, puisque j'ai plus ou moins pris ce problème à bras-le-corps en me disant qu'il faut quand même que cette dette soit réglée, puisqu'il est normal que le bailleur ait
c'est tout en votre honneur, Jonathan, mais il faut faire attention à vous quand même. Hein.
Oui.
Qu'elle soit réglée, mais pas n'importe comment et dans des conditions qui sont quand même un peu pas claires, on va dire.
Donc là, avec mon compagnon, on tombe très souvent en désaccord parce que lui-même m'assure que je n'ai absolument pas à m'en faire dans la mesure où les services qui ne font aucune procédure par écrit, savent très bien pourquoi ils ne les font pas par écrit. Mm-hmm. De l'autre côté, je sais quand même qu'il serait en droit de faire appel à un huissier pour justement recourir à une assignation devant un juge pour chercher un successeur pour condamner une personne qui devra payer, hein, ça va de soi. Maintenant, moi, je me demande à mon niveau qu'est-ce que je peux faire pour que la tutrice revienne assumer ses responsabilités. Et j'ai aussi sollicité l'attention de mes frères et sœurs qui m'ont dit de me débrouiller avec la tutrice ou avec le bailleur, puisque c'était moi le dernier à être dans l'appartement avec mon frère au moment où maman est décédée.
Jonathan, ce que je craignais arrive, il va être 1h du matin, l'émission va se terminer. On ne va évidemment pas en rester là. On va dire qu'on a posé les bases aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dispo vendredi prochain pour qu'on reprenne cette conversation?
Absolument. Oui.
Parce que ce qui serait vraiment intéressant là, c'est de prendre le temps de se poser et de lancer un appel aux auditeurs qui s'y connaissent. Vous savez que régulièrement, on a la chance que des gens spécialisés nous appellent. Si on peut avoir d'ici là des bons conseils de gens qui connaissent bien le problème des tutelles, toute cette situation-là, ça serait vraiment intéressant de pouvoir vous proposer des pistes concrètes.
Hein. D'accord.
Donc,
très bien.
Là, pour l'instant, on va dire qu'on a fait connaissance, déjà.
Oui.
Qu'on a posé un peu les bases d'une situation qui est assez complexe. Il y a des SMS qui commencent à arriver, malheureusement, à 1h du matin. C'est compliqué de gérer un problème comme ça. Et je n'ai vraiment pas envie de vous laisser en suspens, évidemment.
Hein. D'accord.
Donc, on va...
Je vous remercie en tout cas beaucoup pour m'avoir reçu à votre antenne. Et puis, on pourra terminer vendredi, dans ce cas.
Voilà, on résumera à nouveau pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute la semaine prochaine, on posera les bases de tout ça. Et puis, on lancera un appel pour demander vraiment à tous ceux qui s'y connaissent dans ces problèmes-là de nous aider, de vous aider. Et pour l'instant, en tout cas, ne prenez pas de décision cette semaine. Hein, laissez les choses se poser un peu. Protégez-vous, vous, déjà, et votre conjoint, votre ami.
Hein. Merci beaucoup, Sabina.
Je vous embrasse et on se retrouve vendredi prochain, Jonathan.
Merci beaucoup. Très bonne soirée.
Merci, à vous vendredi. Et oui, 1h du matin déjà qui arrive, l'émission se termine. Merci à tous d'avoir été là, merci à ceux qui sont venus prendre la parole. Merci à vous pour tous vos SMS qui ont été très très nombreux, notamment pour François, pour qui je croise les doigts. Demain soir, vous retrouverez Olivier Delacroix à partir de 22h30. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain pour de nouveaux échanges, de nouvelles confidences, toujours avec le même plaisir. Et notre citation d'aujourd'hui sera celle de Bouddha. « Tout ce qui commence a une fin, sois en paix avec cette vérité et tout ira bien ». Passez une bonne semaine et je vous dis à vendredi.